Leçon 1. Acceptez la grande commission. Introduction. Lisez Matthieu 28, 18 à 20. Certaines personnes ont cru que ce commandement était seulement pour les apôtres. Cet ordre était-il réservé aux gens qui l'ont entendu ce jour-là? William Carey a vécu de 1761 à 1834. Il était d'Angleterre. Il était un cordonnier qui avait le désir de répandre l'Évangile. Son église n'était pas très intéressée par le travail missionnaire à l'étranger. Il croyait que Dieu avait déjà décidé qui il allait sauver et qu'il ne dépendait pas de l'aide humaine. Lors d'une conférence de pasteurs, Carey a suggéré un sujet de discussion. Il a demandé si la grande commission est la tâche de l'Église jusqu'à la fin du monde, puisque la promesse que Jésus a donnée avec la grande commission est qu'il serait avec eux jusqu'à la fin du monde. Le leader de la conférence a dit « Asseyez-vous, jeune homme. Vous êtes un passionné, fanatique. Quand Dieu veut convertir les païens, il le fera sans votre aide ou la mienne. Nous savons que le commandement est donné à l'Église jusqu'à la fin du monde. Jésus a promis d'être avec ceux qui portent l'Évangile, même jusqu'à la fin des temps, ce qui montre que la responsabilité de la tâche appartient à l'Église à travers toutes les générations. Les apôtres ne purent accomplir cette tâche de leur vivant, mais Jésus a dit que l'Évangile sera prêché dans toutes les nations. Matthieu 24, 14. Ainsi, la responsabilité de l'évangélisation est héritée par chaque génération de l'Église. Regardez de nouveau les détails de Matthieu 28, 18 à 20. Qu'est-ce qui est commandé spécifiquement? Le commandement spécifique de Jésus était que l'Église aille partout et fasse des disciples pour lui. Le commandement inclut l'évangélisation parce qu'une personne ne peut être un disciple jusqu'à ce qu'elle soit convertie. Le commandement signifie que l'Église doit faire de l'évangélisation et du disciple ses priorités et prendre des mesures zélées. Autrement, elle ne remplit pas la raison pour laquelle elle existe. L'expression « toutes les nations », tous les groupes ethniques indiquent que le travail de la mission étrangère est commandé, puisque les groupes ethniques n'ont pas l'Évangile jusqu'à ce qu'il leur soit apporté. Aucune catégorie de personnes ne devrait être exclue. Le commandement n'est pas seulement de prêcher l'Évangile. Un processus d'enseignement est nécessaire, parce que nous sommes censés enseigner les convertis tout ce que Jésus a commandé. L'enseignant doit avoir un engagement personnel complet à obéir aux commandements du Christ parce qu'il doit être un bon exemple, démontrant aux convertis comment vivre une vie d'obéissance au Christ. Le converti doit aussi être engagé à obéir au Christ parce qu'il ne suffit pas d'apprendre les commandements du Christ sans obéir comme il apprend. S'il n'obéit pas à ce qu'il a appris, il résiste au travail de disciple. Le processus de disciple n'est pas seulement éducatif, mais il forme aussi le caractère. L'évangélisation est une priorité scripturaire. Outre la grande commission, il y a beaucoup de déclarations dans la Bible qui montrent que l'évangélisation est la priorité de Dieu pour l'Église. Matthieu 9, 36 à 38. Jésus voulait que ses disciples partagent sa compassion pour les perdus et prie pour que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson spirituelle. Acte 4, 29. Lorsque l'Église a été confrontée pour la première fois à la persécution, sa première préoccupation n'était pas le danger physique, mais la crainte que l'Évangile ne soit entravé. Ils ont prié pour que, malgré la persécution, la parole de Dieu se répande. Acte 11, 18. L'Église juive glorifiait Dieu de ce que le salut était offert aux païens. Philippiens 1, 18. Paul se réjouit que le Christ soit prêché alors qu'il est emprisonné. Éphésiens 6, 19. Paul a demandé la prière pour une évangélisation efficace. Romains 10, 13 à 15. Paul a souligné le besoin urgent de messagers de l'Évangile, car le salut est pour ceux qui écoutent et qui croient. Raisons pour lesquelles un croyant devrait désirer la conversion des perdus. Il devrait désirer suivre l'exemple de Jésus qui a quitté le ciel pour vivre et mourir pour le salut des perdus. Il devrait désirer que Dieu soit glorifié par la conversion d'un rebelle en adorateur de Dieu. Il doit voir la propagation de l'Évangile comme une victoire du Christ et son expiation. Il devrait vouloir participer à l'œuvre qui est la priorité de Dieu. Il devrait avoir de la compassion pour les perdus qui font face au jugement éternel pour leurs péchés. Est-il possible qu'une personne ait la mauvaise raison de vouloir évangéliser? Quelles seraient les mauvaises raisons? Il n'est pas faux de désirer le succès dans le ministère et la croissance de l'Église locale. Il est important que nous ne soyons pas motivés par la fierté du succès, la concurrence avec d'autres églises ou l'amour de l'argumentation. Certains croyants sont spécialement appelés et doués par Dieu pour évangéliser. Éphésiens 4, 11. Les dirigeants doivent donc se rappeler que tous les croyants ne sont pas qualifiés pour évangéliser de la même manière. Cependant, chaque croyant doit s'engager à aider l'Église à remplir sa mission d'évangélisation et doit être prêt à partager l'Évangile. Raisons pour lesquelles certains croyants n'évangélisent pas. Sujet de réflexion. Pourquoi tous les croyants n'évangélisent-ils pas? Manque de zèle spirituel général. Ne pas se sentir personnellement responsable de l'évangélisation. Ne pas savoir comment ouvrir une conversation spirituelle. Ne pas savoir comment présenter l'Évangile. Peur de ne pas pouvoir répondre aux objections. Embarras d'être différent du monde. Doute que ses efforts seront efficaces. Persécution. Est-ce que l'une de ces raisons est suffisante? Pour commencer. Sujet de réflexion. Si une personne ne fait rien pour le salut des perdus, qu'est-ce qui est nécessaire pour la faire démarrer? S'il n'a pas de zèle spirituel, il a besoin d'un réveil spirituel personnel. Si une personne est spirituellement vivante, fervente et réalise sa responsabilité personnelle de participer à l'accomplissement de la Grande Commission, les deux facteurs suivants sont probablement ceux dont elle a besoin pour commencer. Premier, la foi. Il a besoin de réaliser ce que Dieu fait pour rendre l'Évangile puissant. Deuxième préparation, il doit être équipé d'une formation pour communiquer l'Évangile. Lisez Jean 4, 28 à 30, 39. Qu'est-ce qui qualifie la femme samaritaine pour amener les gens à Jésus? Elle n'avait pas de formation. Elle avait une expérience de la grâce et la priorité de parler à d'autres de Jésus. Si une personne a ces deux choses, l'expérience de la grâce et le désir de dire aux autres, elle a les qualifications les plus importantes d'un évangéliste. La formation est bonne, mais si une personne n'a pas ces deux qualifications, aucune formation ne peut faire de lui un bon évangéliste. La question importante, de quoi avez-vous besoin pour commencer? Sujet de réflexion. Que faites-vous déjà pour aider à répandre l'Évangile? Êtes-vous satisfait de ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous aiderait à partager l'Évangile avec plus de zèle et d'efficacité? Le caractère d'un évangéliste. Parlons du genre de personne qui peut accepter la Grande Commission. Même un nouveau converti peut partager son témoignage et parler de la vérité qui l'a conduit à la conversion. Cependant, une personne qui peut être utilisée par Dieu pour l'efficacité à long terme en tant qu'évangéliste a besoin de certaines caractéristiques. Conversion. L'évangéliste doit être une personne convertie parce que 1. Il a besoin d'un témoignage à partager. 2. Il ne peut pas comprendre la conversion sans en faire l'expérience. 3. Il doit avoir le changement de caractère qui se produit lors de la conversion. Si une personne qui n'est pas convertie fait du travail religieux, elle ne comprend pas ce qu'elle fait et a de mauvaises motivations. 2. Conforme à la vie chrétienne. Bien que nous ne devrions jamais manquer une occasion de partager l'Évangile, l'évangélisation est plus efficace quand une personne entend l'Évangile d'une personne en qui elle a confiance. Les personnes qui vous font le plus confiance devraient être celles qui vous connaissent le mieux. L'évangéliste doit démontrer une vie consacrée à Dieu avec une obéissance constante à Dieu. 3. Connecté avec l'Église. L'évangéliste doit être un membre engagé d'une Église parce que 1. Il doit être capable d'inviter les gens dans une famille de foi. 2. Il a besoin de l'aide de l'Église pour faire des disciples. 3. Il a besoin de responsabilités spirituelles. 4. Il a besoin du soutien et de l'encouragement de l'Église. Il doit avoir la confiance de ses frères et sœurs spirituels. Il doit respecter le leadership et le travail de l'Église. S'il pense qu'il peut être un croyant et faire son ministère sans l'Église, il ne comprend pas l'Église et ne comprend pas l'invitation de l'Évangile. 4. Fidèle à la vérité. L'évangéliste doit croire que la parole de Dieu est le trésor de vérité à partager. La Bible donne les termes du salut et de la relation avec Dieu. Nous ne pouvons jamais changer la vérité pour rendre notre message plus acceptable. 1 Corinthiens 4, 1 à 2. Grâce à la Bible, nous savons que chaque personne finira par aller soit dans un ciel éternel ou dans l'enfer éternel. L'évangéliste est motivé par cette conviction. 5. Rempli d'esprit. Le Saint-Esprit donne la puissance au message de l'Évangile. Il condamne le péché, donne le désir spirituel et rend un incroyant capable de répondre par la foi. L'évangéliste n'est efficace que s'il est utilisé par le Saint-Esprit. Il doit donc compter humblement sur Dieu. Il doit être priant. Il doit demander l'aide de Dieu. L'évangéliste doit chercher la plénitude de l'Esprit. Il y a une plénitude de l'Esprit qui purifie le cœur et donne la puissance pour le ministère. Jésus dit aux apôtres d'attendre cette œuvre de l'Esprit, Actes 1, 4 à 5. Les apôtres ont fait l'expérience de ce remplissage de l'Esprit à la Pentecôte, Actes 1, 8, Actes 2, 4, Actes 15, 8 à 9. Il y a aussi des moments où Dieu donne une onction spéciale de l'Esprit afin que l'évangéliste puisse faire face à un défi spécifique, Actes 13, 9 à 12.